de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le Mont Semeru a connu une éruption ». Un certain nombre de vols ont été détournés en raison des relations tendues entre l'Iran et Israël. Les gardiens de la révolution iranienne saisissent un navire lié à Israël. Le chef de la police a évoqué le succès de la lutte contre la criminalité autour de la tour Eiffel. 5 personnes ont été poignardées à mort dans un centre commercial de Sydney. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le Mont Semeru, Java de l'Est, a connu une éruption à 5h40 hors l'Indonésie occidentale samedi. Le poste d'observation du Mont Semeru a également déclaré le niveau 3 ou alerte du Mont Semeru. Une publication du compte de réseau social X, @PVMBG, a déclaré que la hauteur de la colonne d'éruption était d'environ 600 mètres du sommet. Une publication sur les réseaux sociaux du Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, ou abrégé en PVMBG, a déclaré que l'éruption avait été enregistrée sur un sismographe avec une amplitude maximale de 18 mm et une durée de 120 secondes. Pendant ce temps, Liswan Toape, responsable du poste d'observation du Mont Semeru, a appelé le public à ne pas mener d'activité à proximité du sommet de la montagne. Surtout dans le secteur sud-est le long de Besuk Kobokan, jusqu'à 13 km du sommet. Il a également appelé le public à ne pas se déplacer dans un rayon de 5 km autour du sommet, car il existe un risque de jet de pierre. Un certain nombre de pays ont averti leurs citoyens de ne pas aller en Israël, en Palestine et en Iran. Cet avertissement a été émis compte tenu de l'escalade de la situation entre l'Iran et Israël. Rapporté par Al Jazeera samedi, les pays qui ont émis cet avertissement étaient la France, l'Inde, la Russie, la Pologne et l'Angleterre. On sait que l'Iran a menacé de représailles contre Israël suite à l'attaque de Damas en Syrie le 1er avril. Cette attaque a tué 7 personnes, dont des membres du corps des gardiens de la révolution islamique et 2 généraux. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a déconseillé vendredi à ses citoyens de se rendre en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Dans une déclaration sur la plateforme de médias sociaux X, le ministère a ajouté que les proches des diplomates basés en Iran retourneraient en France et qu'il était désormais interdit aux fonctionnaires français d'effectuer des missions dans le pays et la région. L'Angleterre a également demandé à ses citoyens d'éviter tout voyage, sauf essentiel, en Israël et en Palestine en raison des attaques possibles contre le territoire israélien depuis l'Iran. L'agence de presse iranienne IRNA a rapporté que les gardiens de la révolution iranienne ont saisi samedi un porte-container lié au régime sioniste Israël dans le Golfe, sur fond de tensions croissantes dans la région. L'opérateur du navire MSRIS, le groupe italo-suisse MSC, a confirmé plus tard que les autorités iraniennes avaient arraisonné le navire. Il n'a rapporté que l'opération s'est déroulée près du détroit d'Ormuz et que le navire transportant 25 membres d'équipage était dirigé vers les eaux territoriales iraniennes. Israël a qualifié cela d'opération de piraterie et a exigé que les gardiens de la révolution soient déclarés organisation terroriste par l'Union européenne. Le chef de la police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré que la criminalité avait considérablement diminué autour de la tour Eiffel et d'autres attractions touristiques à l'approche des Jeux Olympiques plus tard cette année. Cité par l'AFP depuis Jakarta samedi, il a expliqué que le déploiement de policiers supplémentaires avait contribué à réduire les incidents de vol et d'attaque autour de la tour Eiffel, où le viol présumé de deux touristes étrangers avait provoqué l'indignation du public l'année dernière. Le nombre d'attaques physiques signalées a diminué de 58% à 21 incidents au premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2023, tandis que les crimes contre les biens signalés, notamment le vol, la fraude et le vandalisme, ont diminué de 18% à 170 incidents. La capitale française s'empresse de préparer les Jeux olympiques à partir du 26 juillet et les Jeux paralympiques à partir du 28 août. On estime qu'il y aura environ 10 millions de visiteurs et la capitale embellira ses quartiers les plus populaires et fera sortir les migrants et les sans-abri du pays. L'adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a déclaré vendredi aux journalistes que l'olympisme allait bientôt émerger. Il a indiqué qu'il existe des centaines de projets autour de Paris visant à améliorer l'apparence de la ville, dont beaucoup seront dévoilés dans les semaines à venir. La police et les services d'urgence ont déclaré qu'au moins 5 personnes étaient mortes samedi dans une attaque au couteau dans un centre commercial de Sydney, la capitale de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. L'auteur présumé, qui était impliqué avec environ 9 personnes, a été abattu par la police. Un porte-parole des services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que 8 personnes, dont un bébé de 9 mois, avait été poignardé et transporté vers des hôpitaux de Sydney. Le bébé a été emmené à l'hôpital pour enfants de Sydney à Renwick, tandis que les autres victimes ont été emmenées dans plusieurs hôpitaux voisins. Le premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié cette attaque massive de très triste. Albanese a déclaré qu'il avait été informé par la police fédérale australienne à la suite de l'attaque perpétré par un homme à Bondi Junction à Westfield un samedi après-midi chargé. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Thank you.
Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le commandant du TNI a expliqué que le KKB en Papouasie s'appelait à nouveau OPM ». Le commandant général de l'armée nationale, ou TNI, Agus Subianto, a expliqué mercredi à Jakarta la mention du groupe criminel armé, ou KKB, actuellement à nouveau appelé l'Organisation Papouasie Merdeka, ou OPM. Selon lui, le KKB s'appelle l'Armée de Libération Nationale de Papouasie Occidentale, ou TPNPB, ce qui présente des similitudes avec l'OPM. Auparavant, lors de la réunion de coordination du ministère des Affaires politiques, juridiques et de sécurité du 29 avril 2021, il avait été convenu de nommer l'OPM comme groupe criminel armé ou KKB ou groupe séparatiste terroriste. Cependant, le 5 avril 2024, le TNI a restitué le statut et la désignation du KKB à l'OPM. Le commandant du TNI a déclaré que l'OPM avait commis des actes de terrorisme, notamment le viol d'enseignants, d'agents de santé et le meurtre du TNI, de la police de la République d'Indonésie ou Polri et de la communauté. Selon lui, cette action ne doit pas être ignorée car les conspirateurs portaient des armes à feu. En fait, OPM continue de perturber les activités communautaires et TNI ou Polri. Il a également souligné qu'il prendrait des mesures fermes contre l'OPM car il ne peut y voir d'État dans l'État. Agus a poursuivi en expliquant que le TNI avait sa propre méthode pour résoudre les problèmes en Papouasie. Même si des opérations armées sont menées, le TNI privilégie également une approche territoriale pour contribuer à accélérer le développement et à améliorer le bien-être de la société. En février, le commandant général du TNI, Agus Subianto, a formé le commandement des opérations HABEMA ou COUPS pour unir les modèles opérationnels du TNI et de la Polri dans la gestion des conflits dans plusieurs régions de Papouasie. Agus estime que COUPS HABEMA, qui est l'abréviation de Harus Berhasil Maksimal, ou en français de Réussir au Maximum, peut accroître l'efficacité de la gestion du conflit en Papouasie où, ces dernières années, il a été confronté au harcèlement et aux attaques du groupe rebelle OPM. Selon lui, cette stratégie est une combinaison de puissance intelligente qui est une combinaison de puissance douce et dure et de diplomatie militaire. HABEMA est le nom d'un lac de la région de Jayawijaya dans les montagnes de Papouasie. HABEMA est l'un des lacs les plus hauts d'Indonésie car il est situé à plus de 3300 mètres d'altitude au pied du mont Trikora. Non seulement en établissant un commandement des opérations, le TNI tente également de mettre en œuvre un système de blocs dans la formation individuelle des soldats et des unités qui se déroule de manière centralisée au centre d'éducation et de formation du commandement des forces spéciales de l'armée du TNI, Batu Jajar, région de Bandung Ouest, Java de l'Ouest. C'est tout la mise au point de la semaine. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, le 14 avril. On commence par le 14 avril 2010, le tremblement de terre de Yushu. Le tremblement de terre de Yushu en 2010 s'est produit le 14 avril 2010 avec une magnitude de 6,9. Le tremblement de terre s'est produit à Yushu, au Qianhai en Chine, à 7h49 du matin, heure locale. Selon le rapport de Xinhua, 1944 personnes ont été déclarées mortes et 10 000 autres blessées. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait dans une zone reculée du plateau tibétain, régulièrement secouée par des tremblements de terre. Le 14 avril 2011, Rosihan Anwar est décédé. Rosihan Anwar est un personnage de la presse indonésienne, historien, écrivain et personnalité culturelle. Rosihan a commencé sa carrière journalistique en tant que reporter pour la Asia Raya pendant l'occupation japonaise. Pendant la lutte, il était retenu captif par les colonialistes hollandais à Bukit Duri, Batavia. Puis en 1961, son journal Pedoman est interdit par les autorités. Pendant le Nouvel Ordre, il a été président général de l'Association des journalistes indonésiens. En 1950, il a fondé avec Usmar Ismail la Société nationale du cinéma. En 1973, Rosiana reçoit le prix Bintang Mahaputra 3 avec le journaliste Jacob Utama. Depuis la fin de 1981, il a fait la promotion des films indonésiens à l'étranger et reste critique du cinéma jusqu'à la fin de sa vie. Et Rosiana Anwar est décédée le 14 avril 2011 à 8h15. Le 14 avril 2014, la bombe à Abuja, Nigeria. Le 14 avril 2014, à 7h moins le quart heure locale, deux bombes ont explosé dans une gare routière bondée à 8 km au sud-ouest du centre-ville d'Abuja, au Nigeria. Cette attaque a tué au moins 75 personnes et 141 autres ont été blessées. Le gouvernement nigérian soupçonne Boko Haram d'être responsable de cet attentat. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa.
Buat selama ini kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana
kamu baik-baik ya di sini, semoga nanti kita bisa ketemu.
Bagaimana kau aku tidak baik-baik
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voici mon Indonésie dont le titre est « IKN sera équipé de 8 terrains de football en 2026 ». La Fédération indonésienne de football, ou PSSI, a pour objectif que les installations du Centre national de formation de la capitale Nusantara, la nouvelle capitale indonésienne, soient équipées de 8 terrains de football en 2026. Comme c'était mardi sur le site officiel de PSSI à Jakarta, PSSI a déclaré que la construction du terrain était soutenue par un financement de la Fédération internationale de football association, ou FIFA, par le biais du programme de FIFA Forward, d'une valeur de 5,65 millions de dollars américains. PSSI rapporte que le programme FIFA Forward a joué un rôle important dans le développement des installations des centres de formation sur le terrain ou bien en dehors. La FIFA a activement soutenu la PSSI pour améliorer le football au niveau national et au niveau des jeunes à travers diverses initiatives, notamment l'amélioration des infrastructures, le football féminin et le développement du football de base. La collaboration de PSSI avec la FIFA a déclenché des efforts de financement conjoints, notamment de la part des gouvernements locaux, qui ont encore accru le développement d'installations de formation clés à IKN. Cet effort ambitieux, a déclaré PSSI, marque une étape significative vers le développement de l'excellence du football en Indonésie, qui promet d'élever le football du pays à un niveau supérieur. En outre, PSSI a expliqué que la collaboration avec la FIFA ne concerne pas seulement le développement des infrastructures de football, mais également le développement des talents. L'Indonésie a rejoint le programme de développement des talents de la FIFA, ou TDS, qui vise à aider les associations membres de la FIFA à réaliser leur plein potentiel en garantissant que tous les joueurs talentueux sont découverts et ont la possibilité de se développer. Le projet PSSI-TDS, qui a débuté en 2022, a identifié 34 directeurs techniques régionaux à travers le pays et les a formés pour se concentrer sur le football de base, le développement des jeunes joueurs, l'identification des talents et le développement des entraîneurs. En 2024, l'ensemble du programme se tourne vers la formation des directeurs techniques afin de mieux comprendre l'environnement des joueurs talentueux et comment les développer efficacement. C'est tout mon Indonésie.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Samanya dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku. Cinta yang menerima kekurangan.
kita berdua, meski lewat luka.
Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Situ Cipanten est un lieu touristique du village de Sukasari, district de Cikijing, région de Majalengka, Java de l'Ouest. Situ Cipanten est un lieu touristique avec la beauté d'un lac exotique aux eaux douces. Ce lac d'une superficie d'environ 1,2 hectares est entouré de belles collines verdoyantes, offre de superbes vues naturelles et diverses installations touristiques complètes. La source d'eau de Situ Cipanten provient de cette source qui ne tarisse jamais, même pendant la saison sèche. La beauté de ce lac en fait l'une des attractions touristiques populaires de la région de Majalengka. Pour visiter Situ Cipanten, les visiteurs peuvent utiliser des véhicules privés ou les transports en commun. La distance entre le centre de la ville de Majalengka et Situ Cipanten est d'environ 10 km. Situ Cipanten offre de nombreuses installations pour soutenir les activités touristiques. Les visiteurs peuvent profiter de la vue sur le lac tout en nourrissant les poissons du lac. Ici, il y a deux lacs de profondeur différente qui peuvent être utilisés pour les touristes pour se baigner. En plus, il y a aussi un grand parking et une grande salle de prière. Les autres attractions de Situ Cipanten incluent l'eau claire qui vous permet de voir le fond du lac et les poissons qui nagent dans ce lac. Cette zone est également un spot photo sous-marin intéressant. La beauté de la région et des forêts environnantes ajoutent vraiment à la beauté et à la fraîcheur de l'air ambiant. Même pendant la journée, cette zone touristique est très confortable à visiter. Pour visiter Situchi Panten, il existe plusieurs conseils pour rendre le voyage plus agréable. Notamment, il est préférable de venir le matin, de porter des vêtements confortables et adaptés à l'activité que vous allez faire, d'apporter le matériel nécessaire comme de la crème solaire, un chapeau et suffisamment de boissons. Respectez les réglementations en vigueur à Situchi Panten, comme ne pas jeter des déchets avec négligence et garder l'environnement propre, ne pas endommager l'environnement naturel et ne rien prendre dans la nature sans autorisation. Pour les visiteurs qui souhaitent passer la nuit autour de Situchi Panten, il existe également des hébergements avec des prix adaptés à chaque bougie.
Aku
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est Immunity, innovation en matière de santé créée par des étudiants de l'UN. Au milieu d'une vie dynamique et stressante, le maintien de la santé physique et mentale est devenu de plus en plus important. C'est là qu'intervient l'innovation, non seulement pour améliorer les problèmes de santé, mais aussi pour les prévenir. L'une des innovations intéressantes issues des étudiants de l'Université d'État de Malang a créé Immunity, un test santé spécialement conçu pour maintenir l'immunité corporelle et la santé mentale. Immunity, un produit de santé innovant né de l'idée d'Ananta Ardiansyah, étudiante à l'Université d'État de Malang. Le développement de ce produit a débuté pendant la pandémie de COVID-19. L'idée de développer le produit Immunity est née d'inquiétudes concernant le déclin de l'immunité et de la santé mentale dans la société. Cela a inspiré Ananta à décider de formuler un test santé offrant une multitude de bienfaits. La création des produits Immunity repose non seulement sur la nécessité d'augmenter l'immunité physique, mais aussi sur l'importance de maintenir la santé mentale, surtout dans des moments difficiles comme la pandémie. En constatant une augmentation de l'anxiété et des changements dans le comportement des gens, Ananta a vu une opportunité de créer un produit qui non seulement procure des bienfaits physiques, mais qui réaligne également l'équilibre émotionnel. La combinaison soigneusement sélectionnée d'ingrédients naturels tels que le thé vert, le curcuma, la cannelle, le gingembre, permet aux boissons Immunity d'offrir un maximum d'avantages aux consommateurs. Cette boisson riche en antioxydants est très bonne pour maintenir l'immunité de l'organisme et soulager le stress qui peut affecter la santé mentale. Grâce au produit Immunity, Ananta a réussi à remporter le concours de rédaction organisé par l'ONS en 2021. De plus, la même année, Ananta a formé une équipe pour présenter le produit Immunity à un événement encore plus prestigieux, à savoir le PIMNAS 2021.
Tanpa Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette fois-ci, je vais parler d'une chanson d'Okai. Okai est le nom du groupe de musique formé par Nico Al-Hakim alias Okin, qui a collaboré avec Kai en tant que chanteur. Après avoir arrangé avec succès la chanson Possessive du groupe Naïf en 2023, Okai revient désormais en arrangeant une chanson intitulée Cinta Begini. La chanson à succès de 2007 est une chanson appartenant au groupe Tangga. Dans le projet de remake de la chanson Cinta Begini, Okai a collaboré avec le soliste Adrian Khalif pour remplir les parties de ce single. Cette chanson créée par Johandi Yahya et Hari Budiman raconte de deux personnes qui s'apprécient, même si chacune d'elles a déjà un partenaire. Bon, chers auditeurs, voici la version de Okai et Adrian Khalif, dont le titre est Cinta Begini. Bonne écoute!
Biar ku yang mengalah.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.